C'est alors que prit la parole, interrompant courtoisement à bon le cardinal Bertrand. Il dit qu'il fallait rappeler comment, pour compliquer les choses et irriter le souverain pontife, était intervenu en 1324 Louis le Bavarois, avec la déclaration de Sachsenhausen, où l'on adoptait sans aucune raison valable les thèses de Pérouse. Et on comprenait mal, remarqua Bertrand avec un fin sourire, comment il se faisait que l'empereur acclamât avec un tel enthousiasme une pauvreté qu'il était bien loin de pratiquer, lui, prenant des positions antagonistes contre Messer le pape, l'appelant inimicus passis, et le disant tout occupé à susciter scandale et discorde, le traitant pour finir d'hérétique et même d'hérésiarque. « Pas exactement, » fit Abon en médiateur. « En substance, si, » dit Bertrand d'un ton sec. Et il ajouta que c'était précisément pour riposter à l'intervention inopportune de l'empereur que Messer le pape avait été contraint de promulguer la décrétale « Quia quorundam » et qu'il avait enfin sévèrement invité Michel de Cézanne à se présenter devant lui. Michel avait mandé des lettres d'excusation, se disant malade, chose dont personne ne doutait, en voyant à sa place frère Jean Fidanza et frère Modeste Custodio de Pérouse. Mais le hasard voulut, dit le cardinal, que les guelfes de Pérouse eussent informé le pape que, loin d'être malade, Fra Michel entretenait des contacts avec Louis de Bavière. Et en tout cas, ce qui avait été ayant été, maintenant Fra Michel semblait d'aspect bel et bien serein, et on l'attendait donc en Avignon. Cependant, mieux valait, admettait le cardinal, jauger d'abord, comme on le faisait en ce moment, en la présence d'hommes prudents des deux parties, ce que Michel dirait ensuite au pape, étant donné que le but de tous était bien de ne pas envenimer les choses et de mettre fraternellement fin à une dissension qui n'avait pas lieu d'être entre un père aimant et ses fils dévoués, et qui jusqu'alors ne s'était ravivée qu'à cause des interventions d'hommes du siècle, empereurs ou leurs vicaires comme on veut, lesquels n'avaient rien à voir avec les questions de notre Sainte Mère l'Église. Alors intervint Abon, et il dit que tout en étant homme d'Église et abbé d'un ordre auquel l'Église devait tant, un murmure de respect et de déférence parcourut les deux côtés de l'hémicycle, il ne pensait pourtant pas que l'empereur dût demeurer étranger à de telles questions, pour les nombreuses raisons que frère Guillaume de Baskerville exposerait par la suite. Mais, disait toujours Abon, il s'avérait toutefois juste que la première partie du débat se déroula entre les envoyés pontificaux et les représentants de ces fils de saint François qui, du fait même d'être intervenus à cette rencontre, démontraient qu'ils étaient les fils très fidèles du souverain pontife. Et donc, il invitait frère Michel, ou l'un des siens, parlant en son nom, à dire ce qu'il entendait soutenir en Avignon. Michel dit que pour sa joie et son émotion, se trouvait parmi eux, ce matin-là, Hubertin de Casale, à qui le pontife lui-même, en 1322, avait demandé une relation motivée sur la question de la pauvreté. Et Hubertin, justement, pourrait résumer avec la lucidité, l'érudition et la foi passionnée que tout le monde lui reconnaissait, les points capitaux de ce qu'étaient désormais et indéfectiblement les idées de l'ordre franciscain. Hubertin se leva, et à peine commença-t-il à parler que je compris comment il avait pu susciter un tel enthousiasme, et en tant que prédicateur et en tant qu'homme de cour. Le geste passionné, la voix persuasive, le sourire fascinant, le raisonnement clair et conséquent, il s'attacha à son auditoire pendant tout le temps qu'il eut la parole. Il débuta par une disquisition fort docte sur les raisons qui confortaient les thèses de Pérouse. Il dit qu'avant tout, on devait reconnaître que Christ et ses apôtres furent dans un double état, parce qu'ils ont été les prélats de l'Église du Nouveau Testament et ainsi possédèrent-ils, quant à l'autorité des dispensations et des distributions, pour donner aux pauvres et aux ministres de l'Église, comme il est écrit dans le 4e chapitre des Actes des Apôtres, et ce point, personne ne le conteste. Mais, secondement, on doit considérer Christ et les apôtres comme des personnes particulières, fondement de toute perfection religieuse et parfait contenteur du monde. Et alors se proposent deux manières d'avoir. L'une est civile et mondaine, que les lois impériales définissent par les mots « in bonis nostris », parce que nôtres sont dix et biens dont on a la garde et que, si on nous les enlève, nous avons le droit de les exiger. Raison pourquoi un compte est de défendre civilement et mondainement son propre bien contre celui qui veut nous le prendre, en faisant appel au juge impérial. Mais dire que Christ et les apôtres possédèrent quoi que ce fût de cette manière est une affirmation hérétique, car comme le dit Matthieu dans le 5e chapitre, « Celui qui veut t'attaquer en justice et t'enlever ta tunique, abandonne-lui aussi ton manteau. » Et Luc ne dit pas autre chose dans le 6e chapitre, où Christ repousse toute offre de domination et de seigneurie, refus qu'il impose aussi à ses apôtres, et puis qu'on se reporte en outre à Matthieu, chapitre 24, où Pierre dit au Seigneur qu'ils abandonnèrent tout pour le suivre. Un autre compte de posséder des choses temporelles en raison de la charité fraternelle commune est de cette manière Christ et les siens eurent des biens par raison naturelle, raison que certains appellent ius poli, c'est-à-dire raison du ciel, pour sustenter la nature qui, sans ordonnance humaine, est en accord avec la juste raison. Tandis que le ius fori est puissance qui dépend d'humaines stipulations. Antérieurement au premier partage des choses, celles-ci, quant à la domination, furent comme maintenant sont celles qui finalement n'appartiennent à personne, et se prêtent à qui les occupe, et furent en un certain sens communes à tous les hommes, alors qu'après le péché seulement, nos ancêtres commencèrent à se partager la propriété des choses, et dès lors débutèrent les dominations mondaines telles qu'elles sont connues aujourd'hui. Mais Christ et les apôtres eurent les choses de la première manière, et ainsi des vêtements et des pains et des poissons. Et comme dit Paul dans la première à Timothée, nous avons les aliments et de quoi nous couvrir, et nous sommes contents. Il en résulte que ces choses, Christ et les siens les eurent non en possession, mais bien en usage. Leur absolue pauvreté restant sauve. Ce qui a déjà été reconnu par le pape Nicolas II dans la décrétale exit qui seminat. Mais du côté opposé se leva Jean d'Anneau, et il dit que les positions du Bertin lui semblaient contraires et à la juste raison et à la juste interprétation des Écritures. Pour ce que dans les biens périssables à l'usage, comme le pain et le poisson, on ne peut parler de simple droit d'usage, et on ne peut pas non plus avoir usage de fait, mais abus seulement. Tout ce que les croyants avaient en commun dans l'Église primitive, comme on l'infère des actes second et troisième, ils l'avaient sur la base du même type de possession d'avant leur conversion. Les apôtres, après la descente du Saint-Esprit, possédèrent des propriétés en Judée. Le vœu de vivre sans propriété ne comprend pas ce dont l'homme a nécessairement besoin pour vivre. Et quand Pierre dit qu'il avait tout abandonné, il n'entendait pas signifier qu'il avait renoncé à la propriété. Adam eut domination et propriété des choses. Le serviteur qui prend de l'argent à son maître n'en fait certes ni us ni abus. Les phrases de la exit qui seminat, à quoi les minorites se réfèrent sans cesse et qui établit que les frères mineurs ont seulement l'usage de ce dont ils se servent, sans en avoir la domination et la propriété, il faut les rapporter uniquement aux biens qui ne s'épuisent pas à l'usage. Et de fait, si la exit comprenait les biens périssables, elle soutiendrait une chose impossible. On ne peut distinguer l'usage de fait de la domination juridique. Tout droit humain, sur la base duquel on possède des biens matériels, est contenu dans les lois des rois. Christ, comme homme mortel, dès l'instant de sa conception, fut propriétaire de tous les biens terrestres et, comme Dieu, il eut de son Père la domination universelle. Il fut propriétaire de robes, d'aliments, de deniers grâce aux contributions et aux offrandes des fidèles. Et s'il fut pauvre, ce n'a point été parce qu'il n'eut pas de propriété, mais parce qu'il n'en percevait pas les fruits, pour ce que la simple domination juridique séparée du recouvrement des intérêts ne rend pas riche qui la possède. Et enfin, la exit, eût-elle dit des choses différentes, le pontife romain, pour ce qui est afférent à la loi et aux questions morales, peut révoquer les déterminations de ses prédécesseurs et produire même des affirmations contraires.